vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause de son grand amour, il nous a aimés, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Jusqu'ici, notre lecture. La Bible, comme le Coran, prétend pouvoir conduire au salut. Personne qui accepte, qui se confie dans les instructions qu'elle donne. La question à laquelle j'aimerais que nous réfléchissions ce matin touche donc aux conditions posées par aussi bien la Bible que le Coran pour être sauvé. Quelle conception du salut dans la Bible et dans le Coran? Et je vous propose pour répondre à cette question 4 points. D'abord, examiner le salut dans la Bible, ensuite le salut dans le Coran. Montrer la différence au 3e point entre la conception de la Bible et du Coran, et je reviendrai à la fin, terminerai par une conclusion générale qui va englober également tout ce que j'avais dit au cours de cette série d'instituts bibliques. Le salut dans la Bible d'abord. La Bible présente le salut comme une œuvre qui dépend uniquement de Dieu et uniquement de Dieu et de Dieu seul. Le salut est un don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres afin que personne ne se glorifie, comme on vient de le lire sous la plume de l'apôtre Paul dans Éphésiens 2. Selon la Bible, pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'elle soit au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Cette œuvre de Dieu se décline en 2 volets. D'abord, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, une œuvre objective, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est une œuvre objective qui a eu lieu dans l'histoire de notre humanité au 1er siècle de notre ère. Et l'autre volet de l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre subjective de l'Esprit de Dieu dans le cœur de la personne. C'est l'œuvre que l'Esprit accomplit dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'être humain, pour lui permettre de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, de reconnaître donc l'œuvre objective de Jésus-Christ dans l'histoire. L'œuvre objective de Jésus à la croix, c'est Jésus se présente comme étant venu, il est venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est lui qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés, disent Matthieu. Et puis c'est lui qui est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est à la croix que Jésus a donné sa vie, c'est ce que nous venons de rappeler lors de la scène. Il a donné sa vie pour le salut de quiconque croit en lui. Il est important de souligner que Jésus n'a pas attendu que les bénéficiaires de son salut, deviennent bons d'abord avant de donner sa vie pour ses bénéficiaires. Au contraire, Jésus a donné sa vie avant qu'aucun de ses bénéficiaires ne devienne vraiment bon. Il a donné sa vie avant que quiconque fasse quoi que ce soit pour être sauvé. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle dans l'épître aux Romains, un passage que nous aimons citer, mais qui est tellement profond et magnifique à garder à l'esprit. C'est lorsque l'apôtre Paul écrit écrit, voici comment Dieu a montré son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'apôtre Jean va aussi dans ce même sens. Voici comment Dieu a montré son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. C'est par amour et uniquement par amour que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Il a fait cela non pas parce que nous sommes devenus bons, comme je le précisais tout à l'heure, ou que nous allions devenir bons, ou que nous allions faire des bonnes œuvres, mais il a fait cela par amour et uniquement par amour. C'est la première œuvre de Dieu en vue de notre salut qui est donc ici mentionnée, c'est l'œuvre de la croix. Nous avons l'habitude de le rappeler, c'est pour ça que je me permets de faire un peu rapidement. La seconde œuvre de Dieu en vue de notre salut, nous ne la signalons pas régulièrement, c'est pour ça que je me permets de le dire explicitement, c'est l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur, dans le cœur de croyants avant même notre conversion. Pour que nous soyons au bénéfice de cette œuvre objective de Jésus-Christ à la croix, il faut que le Saint-Esprit agisse dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre vie personnelle, pour nous ouvrir, pour nous rendre, pour nous préparer afin, en vue d'accepter cette œuvre de Jésus-Christ et de recevoir le salut que Jésus-Christ propose, offre à la croix. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, avant notre conversion. C'est cette œuvre-là qui nous permet de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul signale aussi dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Il dit que personne ne peut dire Jésus est Seigneur. Personne ne peut arriver à la conclusion que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est grâce à l'œuvre de l'Esprit que nous répondons justement à ces deux exigences nécessaires pour être au bénéfice du salut de notre Seigneur, à savoir la repentance, reconnaître notre péché, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de notre péché, et ensuite avoir la foi, mettre notre confiance en Dieu, accepter le pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ à la croix. Si donc nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, ce n'est pas grâce à notre intelligence personnelle ou encore à nos facultés spirituelles ou à notre désir de connaître Dieu. Si nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, c'est parce que le Saint-Esprit a agi dans notre cœur et au plus profond de nous-mêmes pour nous ouvrir à son évangile, pour accueillir l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Pierre déclare à Jésus, lui dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant », Jésus reprend la parole, lui répond en disant « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » C'est l'évangile de Matthieu au chapitre 16. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans un autre passage, dans Matthieu 11, « Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents de ce que tu les as révélées. » Aux enfants, à ceux qui se comportent, donc qui se prennent comme tels. Nous devons donc garder à l'esprit que si nous avons répondu favorablement à l'appel de Dieu en Jésus-Christ, qui nous est adressé en Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu a fait une œuvre en nous, une œuvre profonde, discrète souvent, mais grâce à laquelle nous arrivons à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et sans laquelle nous n'arriverons jamais à reconnaître le Seigneur, Jésus comme Seigneur. Dans la Bible, le salut donc est le fruit de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, de l'œuvre de l'Esprit-Saint dans notre vie de croyant. Pour être au bénéfice de l'œuvre de Christ à la croix, il faut cette œuvre de l'Esprit dans notre cœur pour la recevoir et l'accepter. Vous savez, Jésus est mort pour la croix depuis 2000 ans. Et pourtant, tout le monde n'est pas encore converti. Tout le monde ne reconnaît pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si nous le reconnaissons, c'est parce que l'Esprit de Dieu à travailler dans notre cœur et nous le reconnaissons. Et seuls ceux qui reconnaissent l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, d'une manière ou d'une autre, qui parviennent au salut d'après la Bible. Nous devons donc résister à l'idée qui consisterait à dire que nous pouvons participer, même d'une manière un peu passive, à notre salut. Le salut dans la Bible est un don gratuit, un don d'amour de Dieu, un don d'amour de Dieu et un don complètement, totalement de Dieu, comme nous l'avons souligné. Le salut dans la Bible est un don de la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le texte que nous avons lu répète cette expression à deux reprises, au verset 5 comme au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et le salut dans la Bible aussi est une expression, est un don de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Nous ici, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et passion, vivant dans la méchanceté, dans l'envie odieux, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, écrit l'apôtre Paul dans l'Épître à Tite au chapitre 3. Le salut donc dans la Bible est un don gratuit. Quelques implications maintenant de ce don de salut, de cette affirmation de la Bible. La première implication du fait que le salut est offert par grâce, est un don gratuit, totalement dépend complètement de Dieu. C'est la première implication, c'est que ce salut-là nous implique, nous engage dans une vie de piété et de sanctification. Certains disent à quoi sert finalement de faire les efforts si le salut dépend entièrement de Dieu et c'est Dieu qui me le donne, à quoi sert de faire des efforts? Il ne faut pas nous tromper. Si nous sommes vraiment au bénéfice de ce salut de Dieu, nous ne pouvons que nous engager dans une vie de sanctification et dans une vie de piété. Car autrement, il nous faudrait poser la question si nous sommes réellement au bénéfice du salut dont la Bible parle. Car reconnaître, recevoir la grâce de Dieu, le salut de Dieu, recevoir la grâce de Dieu agissant dans notre vie, produit en nous, nous permet justement, dit la grâce source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dit toujours chapitre 3. Être au bénéfice du salut de Dieu ne peut que donc nous mettre en mouvement dans une vie de sanctification, dans une vie qui cherche la volonté du Seigneur. C'est la première implication que j'aimerais mentionner. La deuxième implication de ce salut que Dieu nous donne, c'est de nous orienter vers une vie motivée et portée par l'amour de notre Père. Nous avons chanté le Père ce matin, son amour, c'est justement notre vie est portée. Être au bénéfice du salut offert par Dieu gratuitement, c'est être porté aussi par l'amour de notre Père. Le salut nous fait prendre conscience de l'amour de notre Père, un Père qui a tout donné, qui a donné le meilleur de lui-même, à savoir son propre fils, pour nous sauver. Et la parabole du père des deux fils, connue sous le nom de la parabole de fils prodigue, rapportée justement où Jésus raconte cette histoire de ce père pour dire un amour extraordinaire, pour illustrer l'amour de Dieu à notre égard. Dans son amour pour nous, Dieu nous a adoptés et a fait de nous des enfants qui pouvons l'appeler Abba Père, comme les témoignages nous l'ont rappelé encore ce matin. Le salut nous introduit donc dans une vie fondée, portée par l'amour du Père. Enfin, une dernière implication rapide de l'amour de salut donné gratuitement par le salut que Dieu nous donne gratuitement, c'est le fait que notre vie, ce salut, nous oriente, nous introduit dans une vie qui cherche la gloire de Dieu. Le salut place la gloire de Dieu au centre de notre vie. Une fois que nous avons reçu le salut, notre objectif, c'est vraiment de vivre pour la gloire de notre Dieu. C'est de suivre l'exemple que Jésus nous a laissé, à savoir que lui a chercher toujours à glorifier le Seigneur. C'est ça ce qu'il a dit dans sa prière dans Jean 17. J'ai cherché, j'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Le salut donc nous invite nous aussi à chercher à faire la volonté de notre Père qui est aux cieux, comme telle qu'elle est dans le ciel, comme elle est donc à la faire aussi ici sur la terre. Donc chercher à accomplir la volonté de Dieu, de notre Père qui est aux cieux. Le salut dans la Bible est certes offert gratuitement, mais il a des implications très concrètes dans la vie du croyant, de celui qui le reçoit. Les implications du salut, en plus de celles que je viens de mentionner, sont nombreuses et nous pouvons encore élargir la liste. Mais il y a des implications concrètes. Mais nous devons faire très attention à faire la différence entre les implications du salut et la réception du salut. C'est une fois que le salut est reçu dans la conception biblique, c'est une fois que le salut est reçu, il y a des implications qui suivent par la suite. Et ce n'est pas le contraire, ce n'est jamais le contraire. Les implications ne nous conduisent pas au salut, c'est-à-dire une vie de sainteté, qui cherche la gloire de Dieu, de consécration, de piété, ne nous conduit pas au salut. Mais c'est le salut qui nous conduit à de telles vies. Donc le salut d'abord, les implications ensuite. Si le salut dans la Bible est fondé sur l'œuvre de Dieu, de Jésus-Christ, et de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant, dans le Coran, le salut est aussi offert, mais nous verrons tout à l'heure, sur la base de deux séries de cinq éléments. Sur la base de deux séries de cinq éléments, c'est ce qu'on appelle les fondements de la foi et les cinq piliers de l'islam. Les cinq fondements de la foi musulmane sont tirés de deux textes coraniques, le Coran 2 et surtout le Coran 4, le verset 136. Aux croyants, vous soyez fermes dans votre foi en Allah, dans son messager, les livres qu'il a fait descendre sur son messager, aux livres qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, s'égare loin de l'égarement. Cinq fondements donc de la foi sont évoqués dans ces deux textes, Dieu, les anges, les livres des prophètes, et puis les messagers, les prophètes et le jour de jugement. Quant aux piliers de l'islam, ne se trouvent pas regroupés comme tels dans un seul texte coranique, ni d'ailleurs dans le Coran comme dans la tradition, les hadiths, qu'on appelle les hadiths, on trouve le terme de pilier employé pour indiquer des éléments, ces piliers qui vont être désignés dans la théologie musulmane. Chaque pilier de l'islam est tiré d'un texte particulier, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, tout au début de l'islam, la première division survenue dans l'histoire de l'islam juste avant la mort de Mohammed, c'est ce qu'on appelle les kharijites, les sortants, et ceux-là, par exemple, adoptent six piliers de l'islam. Mais plus récemment aussi, certains djihadistes adoptent six piliers de l'islam, ils rajoutent le djihad comme un sixième pilier. Mais ceci dit, dans la théologie classique, aussi bien sunnite que chiite, on retient cinq piliers de l'islam. Un mot d'abord sur les cinq fondements, et après je dirai un mot sur les cinq piliers. Les cinq fondements de la foi musulmane. Le premier fondement, c'est croire en Dieu, Allah. Comme j'ai consacré le premier institut biblique au sujet de Dieu, dans le Coran et la Bible, donc je ne vais pas développer ce point ici. Je rappelle simplement que le Dieu du Coran est un Dieu unitaire, contrairement au Dieu révélé par Jésus-Christ, qui est un Dieu trinitaire. Et pour plus de précision sur ce point, je vous renvoie simplement à cet institut biblique du mois de février. Le deuxième fondement de l'islam, qui vient juste après Dieu, mais bien avant les Écritures, et les prophètes, ce sont les anges. Cela montre l'importance des anges dans la théologie musulmane. Les anges sont présentés dans la théologie musulmane comme des esprits pouvant avoir jusqu'à 4 ailes et ils doivent adorer et glorifier Dieu. Les anges sont aussi un modèle pour les croyants qui doivent chercher à les honorer, qui doivent chercher à leur obéir, qui doivent chercher aussi leur amitié. Parmi les activités angéliques mentionnées dans le Coran, il y a comme par exemple porter le trône de Dieu, Il y a 8 anges qui portent le trône de Dieu, ou encore consigner et transmettre la parole de Dieu tout au long de l'histoire, comptabiliser les bonnes et les mauvaises œuvres des êtres humains en vue de jour de jugement, combattre aux côtés des fidèles, témoigner en faveur des fidèles et contre les infidèles le jour de jugement, encore intercéder en faveur des fidèles pécheurs qui seraient très proches au jour de jugement, très proches du paradis. Et enfin, ils sont aussi chargés de surveiller l'enfer, les infidèles dans l'enfer, pour qu'ils ne sortent pas de l'enfer. C'est le Coran 43, le Coran 46, si ça vous intéresse. À la tête de tous ces anges, on trouve 4 archanges. Il y a le premier qui est Gabriel, mentionné régulièrement dans le Coran. C'est lui qui a donné la Torah à Moïse, qui a annoncé la conception miraculeuse de Jésus à Marie, encore qui a donné le Coran à Mohammed. Il y a l'archange Michael, qui veille sur la création, Israfil, qui sonnera la trompette de dernier jugement, Azraël, qui va encore, qui est rencontré par les gens lors du jugement, c'est-à-dire à la tombe, hein, jugement tombal, j'ai parlé la dernière fois sur cela aussi. Et puis, le dernier archange aussi, c'est Satan, qui est appelé comme archange dans la mesure où il est à la tête. Archange, c'est être à la tête des anges. Hein, donc, dans la mesure où il est à la tête de tous ces esprits qui l'ont suivi lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Donc, le péché, la chute de Satan dans le Coran, c'est lorsqu'il a désobéi à Adam. Il a refusé de s'humilier, de s'incliner, de se prosterner devant Adam, et c'est cela qui a causé sa chute, d'après, bien sûr, le Coran, hein, je parle d'après la théologie musulmane. Le troisième fondement de la foi musulmane porte sur les livres saints que Dieu a révélés au fur de l'histoire de l'humanité. Ces livres révèlent la parole de Dieu, et je rappelle encore, dans la conception du Coran, la parole de Dieu préexiste auprès de Dieu depuis toute l'éternité, et Dieu a commencé à révéler partie par partie tout au long de l'histoire, et c'est ainsi qu'il a révélé donc à Moïse, la Torah à Moïse, les psaumes à David, l'évangile à Jésus, et puis le Coran à Mohammed. La révélation de cette parole, qui est appelée la mère du livre ou les tablettes célestes, la révélation de cette parole dans la théologie musulmane se fait par 3 voies. D'abord, soit par la révélation, ce qu'on appelle en arabe le wahy, c'est la révélation qui peut prendre donc des formes très différentes dans les rêves, les visions, etc. Soit par la parole, kalam, c'est-à-dire un message verbal clair, ou encore par un nuzul, c'est-à-dire la descente, c'est un message qui est descendu, dicté, des paroles dictées clairement par Dieu. Donc ce sont les 3 moyens que Dieu aura à utiliser dans le Coran pour révéler sa parole tout au long de l'histoire de l'humanité. Une fois le message est reçu, le prophète a la responsabilité de le transmettre à son peuple, au peuple dont il est issu, ou bien au peuple vers lequel il est envoyé. C'est ainsi que donc Dieu a révélé la Torah aux Juifs, les psaumes, pardon, la Torah à Moïse, bien sûr, pour transmettre au peuple juif, et puis les psaumes à David, l'évangile à Jésus et le Coran à Mohammed. Ces livres étant donc émanant de la mère du livre, tout musulman doit croire dans ces livres révélés. Le 4e fondement de la foi musulmane porte sur les prophètes, c'est-à-dire ces personnes que Dieu a choisies, mis de côté, par lesquelles il a parlé, il a transmis cette parole préexistante depuis toute l'éternité auprès de Dieu pour les êtres humains. Le musulman doit croire donc à tous les prophètes, et parmi les 25 prophètes coraniques, on trouve bien Noé, on trouve Abraham, Moïse, Jésus, bien entendu. Le Coran accorde une autorité particulière à 6 prophètes qu'il considère comme les grands prophètes: Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Enfin, le dernier fondement de la foi musulmane, c'est la foi dans le jour de jugement. Et si cet article n'est mentionné qu'en dernier lieu, il ne faut surtout pas se tromper sur son importance, car, comme je l'avais montré lors du dernier institut biblique, dans la prédication de Mohammed, une place capitale et réservée, même très importante, même au niveau de la quantité, pas simplement de la qualité, mais au niveau de la quantité, est réservée au jour du jugement. Et je vous renvoie donc au dernier institut biblique si vous êtes intéressé sur ce point. À côté de ces cinq fondements, il y a les cinq piliers de l'islam, qui sont aussi appelés les prescriptions divines. Dans ces cinq piliers, il y a trois premiers qui sont obligatoires pour tout musulman et les deux derniers qui sont subordonnés aux moyens du fidèle. Le premier pilier de la foi, c'est la confession justement de foi. C'est cette confession qui ouvre, qui permet aux musulmans de prétendre accomplir les autres piliers. Sans ce premier pilier, il ne peut pas aller plus loin. Donc ce premier pilier, c'est la confession de foi. Il consiste à dire en arabe au moins une fois dans sa vie, donc dire je confesse qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah et que Mohammed est son messager. Donc il faut le dire une fois au moins en arabe, même si vous n'êtes pas arabe, même si l'arabe n'est pas votre langue maternelle. Cette confession de foi souligne que la foi est placée dans le Dieu unitaire, parce qu'elle précise que c'est vraiment dans le Dieu unitaire, et puis que la reconnaissance de la mission prophétique de Mohammed. Le deuxième pilier, c'est la prière. Elle permet aux croyants de dire tout au long de la journée son adoration, sa soumission à Dieu, tout au long de la journée. Il y a cinq prières qui ponctuent la journée du fidèle, et ces prières se répartissent tout au long de la journée, à vrai dire avant le lever du soleil, jusqu'après le coucher du soleil. La première, c'est la prière du bon matin, on appelle Salat al-Fajr, qui est regroupée avec la prière du matin, donc la prière du bon matin et la prière du matin, pour faire juste un peu la différence, et qui doivent être accomplies autour de 5h et 6h du matin, avant le lever du soleil et en fonction des saisons. Ensuite vient la prière de début d'après-midi, autour de 13h, vous vous épargnez les mots en arabe. Hein. Donc, et puis la prière d'après-midi autour de 16h, la prière du coucher du soleil autour de 18h, et puis la prière d'après le coucher du soleil autour de 21h. Ces prières doivent être précédées par des ablutions et elles doivent être orientées vers la Kaaba, qui est devenue à partir de 624 qu'on appelle en arabe la qibla, c'est-à-dire la direction vers laquelle doit se tourner le musulman lorsqu'il fait sa prière. Maintenant, c'est quoi la Kaaba ? C'est une construction, en français on l'appelle comme ça aussi, malheureusement. Enfin, voilà, donc il n'y a pas. C'est une construction maçonnique, maçonnerie cubique, qui est sous forme d'un cube, qui se trouve au temple de la Mecque et. On considère qu'à l'intérieur, il y a la pierre noire qui aurait été emportée par Adam du paradis. Donc Adam, lorsqu'il est parti du paradis, il a pris avec lui une pierre noire qu'il a placée à l'intérieur de cette construction cubique et que tous les musulmans, donc vers lequel tous les musulmans vont se tourner. Et de toute manière, lors de pèlerinage aussi, les musulmans rendent visite à ce sanctuaire. À son arrivée à Médine, donc là nous sommes en 622, Mohammed, toute la communauté musulmane, initialement en fait, il faisait des prières en direction de Jérusalem, et ce n'est pas en direction de la Mecque. Mais donc ils sont arrivés en 622. Il a fallu attendre 624 lorsqu'il y a un petit problème, enfin il y a eu même un gros problème entre lui et les Juifs. C'est à partir de ce moment-là qu'il a dit on va changer l'orientation de la prière au lieu de l'orienter vers Jérusalem, ce qu'ils ont fait jusqu'alors, c'est-à-dire pendant tout le ministère de Mohammed de 610 jusqu'à 624. À partir de 624, il a dit donc on va se tourner vers la Mecque, sachant que ce sanctuaire, la Mecque, existait déjà bien avant l'arrivée de l'islam. La prière est appliquée et pratiquée d'une manière individuelle, mais aussi elle est pratiquée d'une manière collective à la mosquée sous la direction d'un imam. Troisième pilier est le jeûne du Ramadan. Il est obligatoire pour tout musulman afin de se commémorer le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé, le début du Coran a été révélé à Mohammed. Donc dans la théologie musulmane, Dieu a donné la première parole, c'est le Coran 96, quand Dieu a donné la première parole à Mohammed, c'est le mois de Ramadan. Il faut savoir que le mois de Ramadan, comme tous les autres mois lunaires, existait déjà avant l'arrivée de l'islam. C'est comme par exemple, aujourd'hui on vous dit le mois de février, ou le mois de mars, ou le mois d'avril. Donc c'est des mois qui existaient déjà. Et l'islam donc s'est servi de ces mois-là, et du moment que, soi-disant, la première révélation du Coran a été donnée le mois de mars, ils ont dit, tous les mois de mars, on va les consacrer pour le jeûne. C'est le neuvième mois du croissant lunaire, du calendrier donc islamique, c'est le mois de Ramadan, et chaque année, ce mois est mis de côté, où on ne doit pas manger ni boire, du lever du soleil jusqu'à son coucher, ni avoir des relations d'ailleurs conjugales. Les femmes enceintes, les personnes malades, ou celles qui se trouvent en situation particulière, comme par exemple le voyage, etc., sont dispensées, à condition, bien sûr, qu'elles le fassent le mois suivant ou le moment venu. Pendant ce mois de Ramadan, la miséricorde de Dieu doit être au centre de la vie du fidèle et un comportement presque sans reproche lui est demandé. Ce mois est un mois de réconciliation, de pardon, et il est suivi d'une fête de rupture de jeûne, donc où les amis, la famille, etc. sont invités. Je signale d'ailleurs pour cette année que le mois de Ramadan va commencer là prochainement, en fin mois de mai, le 27, à partir du 27 mai. Quatrième pilier, c'est l'aumône, ce qu'on appelle zakat. Elle peut se faire par un don d'argent, d'or, de métal, par des récoltes, par des remises de dettes, etc., et en direction des pauvres. L'aumône est un acte tourné vers Dieu et l'au-delà. On le fait bien entendu pour le pauvre, mais ce qui est visé derrière cet acte, c'est d'abord on le fait pour Dieu et pour le jour du jugement en particulier. Dans le Coran, l'aumône est toujours associée à la prière et les deux sont considérés comme les enseignements fondamentaux des religions d'autrefois, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme. Et c'est vrai que lorsque Jésus parle des pratiques religieuses dans le serment sur la montagne, il reprend les trois qui étaient courantes aussi dans le judaïsme de son époque. C'est la prière, le jeûne et l'aumône. C'est le Coran 9 qui aborde la question de l'aumône, le verset 60, qui dit explicitement que cet aumône doit être destiné pour les pauvres. Par l'aumône, le fidèle donc purifie son âme. Celui qui fait l'aumône, on dit en arabe yetazaka, et ce verbe, c'est-à-dire, il vient de la même racine que zakat. Donc yetazaka, c'est il se purifiait. Se purifier, donc l'aumône et purifier, c'est vraiment de la même racine, hein, il vient de la même racine. Donc celui qui fait l'aumône ne fait que se purifier en vue donc de l'au-delà. Et vous précisez que donc ce pilier est obligatoire uniquement pour les personnes qui ont les capacités matérielles, financières de le faire. Enfin, un dernier et cinquième pilier de l'islam, c'est le pèlerinage. Deux pèlerinages sont mentionnés dans le Coran. D'abord, le grand pèlerinage qui est appelé Al-Hajj, il ne peut être accompli qu'aux dates fixées du mois, d'un autre mois que le ramadan du calendrier musulman qui s'appelle Dhu Al-Hijja. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le pèlerinage Al-Hajj. Et puis il y a le petit pèlerinage qu'on appelle l'Umra en arabe et qui peut être réalisé à n'importe quel moment dans la vie, du fidèle. Aussi bien l'un que l'autre se font autour des sanctuaires qui se trouvent autour de la Mecque et ses environs. Et parmi ces sanctuaires, bien sûr, il y a la Kaaba dont j'avais parlé tout à l'heure, le sanctuaire dont j'avais parlé tout à l'heure. Le grand pèlerinage a été déjà pratiqué par les Arabes avant l'arrivée de l'islam, à la Mecque, dans ce fameux sanctuaire que j'ai mentionné, il y avait 360 idoles. Dans ce sanctuaire. Et tous les ans, tous les habitants de l'Arabie, ceux qui viennent de désert, viennent faire le pèlerinage à la Mecque. Ils font aussi des sacrifices, etc. Et donc, c'est pour ça que la ville de la Mecque était vraiment très riche. Et la tribu de Mohammed, c'était la tribu qui gérait un peu le commerce aussi des idoles à l'époque. Et donc, Mohammed, il reprend exactement un peu les mêmes lieux, les mêmes principes, mais en les islamisant. Hein. À partir de 624, donc Mohammed ah oui, et il a été institué à partir de 624, pardon, le pèlerinage a été institué à partir de 624 par Mohammed. Et il avait fait, voilà, pour deux raisons, excuse-moi, pour deux raisons. D'abord, il veut remplacer la pratique des gens de l'Arabie d'avant l'islam en disant, écoutez, je vous apporte une religion, mais je ne vais pas vous enlever complètement les rites. Vous savez, les peuples ont besoin des rites, ont besoin de certains repères hein, pour se retrouver, pour se communier sur tous les plans, aussi bien politiques d'ailleurs que religieux. Et Mohammed donc leur dit, en effet, on va enlever les idoles, mais par contre, on gardera certains rites, et il les a islamisés, si vous voulez. Et puis, la deuxième chose pour laquelle il a instauré ce pèlerinage, c'était pour se démarquer aussi de prendre son autorité vis-à-vis des gens du livre, la communauté juive et chrétienne, pour lesquels, plus important, c'est vraiment la Jérusalem. Et donc, il aura dit, pour nous, ce sera la Mecque. Par le pèlerinage, le musulman commémore donc l'acte d'obéissance d'Abraham qui voulait sacrifier son fils Ismaël. Il y a des débats, mais généralement dans la théologie musulmane, on dit c'est Ismaël, en exprimant ainsi le triomphe de la foi face à sur la faiblesse humaine. Mohammed, avant juste sa mort, donc, aurait accompli justement ce grand pèlerinage et il a fixé les dernières normes à l'occasion de ce grand pèlerinage, et juste quelques temps après, d'ailleurs, quelques mois après, il va mourir. Donc, deux séries de cinq éléments, chacune laissée par Mohammed pour le fidèle musulman en vue de son salut. Deux implications maintenant dogmatiques importantes en lien avec la question du salut dans la théologie musulmane. La première implication, il faut dire qu'il faut gagner son salut. Contrairement à la foi chrétienne, dans la religion musulmane, il faut gagner le salut avec les bonnes œuvres. Et je rappelle la règle coranique qui préside au sort de chaque être humain, aussi bien donc pour l'au-delà, c'est le Coran 99, que j'avais déjà mentionné lors du dernier institut biblique, le verset 7 et 8, qui dit « Qui aura accompli le point d'un atome de bien le verra, qui aura accompli le point d'un atome de mal le verra ». Les mérites donc seuls comptent face au jour de jugement dans l'islam. Et cette règle est déjà appliquée dès la mort de la personne. Sur cette base, sur cette règle, il y a deux groupes qui vont se distinguer. Donc vous avez les personnes dont les bonnes œuvres l'emportent sur les mauvaises. Elles seront automatiquement sauvées, ils l'ont gagné par leurs propres œuvres. Et les personnes dont les mauvaises œuvres l'emportent sur les bonnes, ceux-là iront directement à l'enfer, seront jetés en enfer. Le fidèle musulman, donc, qui veut entrer en paradis, doit s'appliquer aux fondements de la foi et pratiquer les piliers de l'islam tout au long de sa vie. Bien sûr, là, je vous ai présenté les deux groupes, mais j'ai parlé la dernière fois des gens qui pourraient être très proches et qui auraient besoin de l'intercession de Dieu ou de prophète, et ceux-là aussi seront sauvés avec un temps pour récupérer les points manquants. La seconde implication en lien avec le salut dans l'islam est le fait qu'il n'y a pas d'assurance de salut. En effet, l'application rigoureuse des cinq piliers de l'islam et le respect des cinq fondements de la foi que je viens d'exposer n'assurent pas automatiquement l'entrée au paradis. Ce sont les bonnes œuvres par rapport aux mauvaises et non pas l'application des règles. Tout se décidera donc, comme je vous ai dit, en fonction des œuvres des uns et des autres. Et cette règle, c'est cette règle-là qui va présider au sort éternel de chacun. Il y a bien entendu une exception, celle des prophètes et des martyrs. Les prophètes parce qu'ils ont été utilisés par Dieu, et les martyrs parce que, en effet, pour les martyrs, le Coran leur promet le paradis directement. Je vous lis le Coran 9, verset 89. Il dit « Pendant ce temps, le prophète et ceux qui ont cru avec lui, engagés dans le combat, dans le djihad, leur bien et leur vie, voilà ceux qui jouiront de toutes les faveurs, voilà ceux qui seront heureux. Dieu leur a préparé des jardins. » Vous savez qu'en arabe, les jardins, c'est al-jannah. C'est exactement le même mot pour parler du paradis. Donc les jardins, c'est le paradis sous lesquels coulent des ruisseaux où le séjour sera éternel. D'après une tradition citée par un théologien, de grands théologiens, qui revient régulièrement, celui qui meurt dans le martyr a plusieurs avantages, a 6 avantages précisément, dont celui juste de rentrer directement au paradis. Le fait que le salut de martyr, le statut pardon, de martyr donne des avantages dans la vie future est affirmé à plusieurs reprises dans le Coran, et là, il n'y a aucune discussion. Par contre, il y a la discussion sur la conception de ce statut de martyr. Vous savez qu'il a ici, je rappelle, 2 conceptions d'une manière schématique, mais je ne peux pas rentrer dans le détail. La première, c'est la conception classique de martyr, qui est considérée que toute personne qui meurt pour défendre la communauté musulmane ou ses biens, dans un cadre bien précis, sous la direction d'une autorité bien précise, reconnue de tous, donc souvent c'est le cas dans les guerres défensives, donc on se défend. Mais après, vous avez une autre conception, qui est la conception djihadiste, qu'on connaît davantage ces dernières décennies, et qui consiste à dire que, en fait, le statut de martyr est donné à toute personne, même qui se tue ou qui tue les autres, qui commettent des actes terroristes. Là donc, j'ai schématisé, mais si vous êtes intéressé sur ce sujet, il y a un livre qui vient de sortir sous la direction de Michael Razzano, qui vient juste de sortir donc cette année en 2017, qui porte sur la violence, une fatalité. Vous trouverez des contributions aussi de M. Nicole, d'Emile Nicole sur l'Ancien Testament, la violence dans l'Ancien Testament, comme d'Henri Blocher par exemple. Et j'ai contribué aussi à un texte sur la violence dans l'islam. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent, vous pouvez trouver cet article, un peu une version antérieure, donc pas améliorée, sur Internet, et là sur le site de la faculté, ils ont mis le PDF sur le site de la faculté FLTE. Donc si vous tapez FLTE, raison du fondamentalisme islamique, vous tomberez dessus normalement. Après avoir maintenant exposé le salut dans la Bible et le Coran, je vous propose de souligner très rapidement quelques différences entre le salut tel que la Bible le présente et le salut tel que le Coran le présente. J'aimerais souligner en particulier 2 différences fondamentales. Dans la Bible, le salut est fondé sur l'œuvre de Dieu et uniquement sur l'œuvre de Dieu. Cela, bien entendu, rassure dans la mesure où le salut ne dépend pas de nous, mais de Dieu uniquement. Parce que qui peut prétendre que nous allons tenir debout demain lorsque les choses seront ébranlées, comme nous l'avons chanté ? Personne. En tout cas, celui qui peut l'affirmer, qu'il fasse attention de tomber, nous dit l'apôtre Jacques. Celui qui pense être debout, fasse attention de tomber. Mais fort heureusement, c'est sur Dieu et sur Dieu seul. C'est sur Dieu et c'est de Dieu seul que nous avons notre salut. Et là, nous pouvons avoir l'assurance fondamentale que nous serons protégés. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ » dans l'Épître aux Romains au chapitre 3. Contrairement à la Bible, le salut dans le Coran dépend entièrement du fidèle. Du tout de Dieu, mais du fidèle. La vie terrestre est perçue comme un test que Dieu donne aux êtres humains. Un test que Dieu donne aux êtres humains, et c'est donc à chacun de réussir son test en accomplissant plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Comme on l'avait déjà donc souligné la dernière fois, s'il manque simplement juste un peu pour réussir ce test, la miséricorde de Dieu peut se manifester, mais la miséricorde de Dieu se manifestera non pas pour faire grâce de ce reste qui manque, mais pour compenser le reste qui manque et atteindre l'objectif, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne. L'avantage de cette conception musulmane de salut, c'est la responsabilisation de l'être humain. Elle responsabilise le fidèle. Il ne peut pas dire « bon, je peux pécher et demander pardon à Dieu », comme parfois il nous arrive de le faire en tant que chrétien. Non, il faut réfléchir 2 fois, parce que je risque d'assumer les conséquences. Donc, ça responsabilise, mais en même temps, il me semble qu'elle fait vraiment peur face à des limites humaines, parce que lorsqu'on se retrouve seul dans sa chambre, dans sa réflexion, un fidèle musulman, j'étais musulman et je connais de l'intérieur aussi, plusieurs fois on se pose des questions, est-ce que je peux vraiment être à la hauteur? Est-ce que je peux vraiment assurer? Parfois cette question, je vous promets qu'elle pèse, elle peut même terroriser des personnes de l'intérieur, tellement elle est lourde à porter. En résumé donc, la différence entre le salut qui nous est offert par la Bible et dans le Coran, on peut dire que dans la Bible, le salut précède les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés. Cela nous introduit dans une nouvelle réalité. On ne peut pas dire que nous sommes sauvés tout en restant dans la réalité ancienne. Cela montre que nous ne sommes pas encore sauvés. C'est comme un enfant qui dit il est né, mais il continue toujours à vivre dans le ventre de sa mère. Donc il n'est pas encore né. S'il est né, donc il vit dans le monde. Sinon, il ne pourrait pas dire que je suis né tout en disant que je vis toujours dans le ventre de ma mère. C'est la même chose, le salut dans la Bible. Lorsque nous sommes sauvés, cela nous introduit automatiquement, c'est la nouvelle naissance, dans une nouvelle réalité qui nous conduit dans une vie de sanctification qui cherche la gloire de Dieu et ainsi de suite. Mais dans le Coran, les bonnes œuvres précèdent le salut. Ce sont les bonnes œuvres qui conduisent au salut et ce n'est pas le contraire. Dans la Bible, Dieu offre le salut parce que l'être humain est pécheur. Il ne peut pas gagner par lui-même, par ses propres forces, par ses propres ressources, par ses propres œuvres. Il ne peut pas gagner le salut. Dans le Coran, l'être humain est soumis à une grande pression, comme je vous disais, pour gagner le salut de Dieu. Mais comme nous savons que l'être humain est profondément marqué par le péché, il ne pourra jamais satisfaire la justice de Dieu. Et souvent, lorsqu'on pense, nos amis, même membres de la famille musulmans, pensent qu'ils peuvent satisfaire la justice de Dieu en faisant le bien, et je vous promets qu'ils le font. Je connais des musulmans de très près, des membres de ma famille, parfois je me sens très petit devant leur piété, devant leur engagement. Et pourtant, il m'arrive de leur dire, même cela ne peut pas satisfaire vraiment l'exigence de la justice et de la sainteté de Dieu. Soit vous vous sous-estimez, vous surestimez, pardon, vos œuvres, la qualité de vos œuvres, etc., soit vous sous-estimez la justice et la sainteté de Dieu. Et il m'arrive de faire réfléchir un petit peu des amis musulmans sur cette question, me semble-t-il importante. C'est pourquoi il me semble qu'il nous appartient à nous chrétiens de pouvoir témoigner, de pouvoir dire à nos amis, entre autres musulmans, leur dire qu'ils peuvent être délivrés de l'esclavage, de la mort, de la peur de la mort, parce qu'il y a Dieu en Jésus-Christ, par son esprit, qui donne sa justice gratuitement, c'est qui donne son pardon gratuitement, et qui, c'est en cela que consiste l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est qu'on peut recevoir le pardon et la justice de Dieu. Bien sûr, après, cela nous engage dans une nouvelle vie, mais d'abord recevoir et être vraiment apaisé, être réconcilié avec Dieu et avec soi-même, bien entendu, avec les autres. C'est la raison pour laquelle je voulais, pour terminer cette série d'instituts bibliques sur la foi chrétienne et la religion musulmane, j'aimerais nous sensibiliser, nous encourager au témoignage auprès de nos amis musulmans. Et c'est mon mot de conclusion. Le témoignage que nous pouvons avoir auprès de nos amis musulmans ou en tant que chrétiens me semble peu se faire, mais d'une manière volontaire, d'une manière consciente, sur deux terrains. D'abord, le terrain relationnel, il faut le favoriser. Le terrain relationnel, il me semble, parmi les choses qui peuvent aider, c'est d'abord de les aimer. Demander au Seigneur de les aimer. Vous savez, parfois les musulmans, et je le dis avec beaucoup de compassion, ne sont pas faciles à aimer. Ils parlent comme étant aussi anciens musulmans. Parfois, nous sommes un peu tordus. Et manifester un peu d'amour, un peu de compréhension peut vraiment les aider concrètement dans notre relation avec eux. Et notre amour à leur égard peut se manifester par la bienveillance, par le soutien que nous pouvons leur apporter. Et aussi, notre amour peut nous permettre de dépasser certains préjugés, ne pas laisser BFM TV ou je ne sais pas quoi d'autre, la presse dicter notre attitude à l'égard des musulmans, et souvent une attitude caricaturale. Nous pouvons donc, par amour pour eux, par l'amour que le Seigneur répand dans notre cœur, nous pouvons aller au-delà de certains préjugés. Et puis les accompagner, notre amour peut se manifester concrètement aussi par un vrai accompagnement, accompagner dans des moments difficiles peut-être, un voisin, un ami, un collègue, lui montrer notre disponibilité et que nous pouvons l'aider s'il y a besoin. C'est cela aussi, manifester l'amour concrètement. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est la patience et la compréhension, souvent peut-être qui va être un peu plus que la moyenne. Donc, on demandera, ça nous demandera un peu plus que la moyenne. Et c'est cela aussi qui dit notre amour à leur égard. Jésus nous dit, si vous aimez simplement ceux qui vous aiment, quel amour avez-vous? Enfin, même les gens de ce monde font pareil. Nous, en tant que disciples, nous sommes invités à faire plus et aller au-delà. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment, si cela est possible, c'est de nouer une relation amicale, de nouer une amitié avec les musulmans. Et l'avantage de ces relations amicales, ça nous permettra à nous, autant que chrétiens, de dépasser certains préjugés et à eux aussi de voir qu'autant que chrétiens, finalement, nous aimons le Seigneur, nous avons la crainte de Dieu et nous ne vivons pas une vie de débauche. C'est la vision un peu donnée qui circule un peu dans ces milieux-là. Pour les relations amicales, pour l'amitié, les musulmans en particulier qui sont nés et grandis ici en France sont particulièrement sensibles à cause de toutes les souffrances qu'ils rencontrent. Les souffrances, aussi bien ici, ils ne se sentent pas du tout acceptés, aussi bien ici en France, que dans le pays de leurs parents, par exemple, lorsqu'ils vont en vacances, etc. Souvent, ils sentent le même rejet qu'ils sentent ici. Une relation donc amicale peut faire la différence, peut leur permettre de connaître de vrais chrétiens, de vrais disciples du Seigneur Jésus. Et puis peut-être une dernière exigence, c'est le respect. Quand je dis le respect, souvent en tant que chrétien, maintenant la campagne électorale est derrière nous, ouf, mais en tant que chrétien, parfois on tombe toujours dans des clichés. On compare souvent ce que nous avons de meilleur à ce qu'ils ont de pire. On parle de notre Dieu d'amour et de leur Dieu de guerre. Lorsqu'on veut parler de Dieu d'amour, il faut parler aussi de l'amour. Lorsqu'on parle de l'amour dans l'Évangile, il faut parler aussi de l'amour dans le Coran. Est-ce qu'il y a l'amour dans le Coran ou pas? Lorsqu'on veut parler de la guerre dans l'Islam, il faut regarder s'il y a de la guerre dans l'Évangile. Donc, comparer ce qui est comparable. Et c'est ça aussi le respect de l'autre. Et c'est là, je vous promets, ils le sentent. Quand on les respecte, souvent, ça leur permet de franchir le pas eux aussi, de nous respecter et du coup de s'ouvrir pour entendre réellement ce que pense la Bible sur une chose ou l'autre. Le second terrain, bien sûr, sur lequel il nous faut travailler est celui de dialogue, celui de débat. Donc il faut aller aussi plus loin une fois que la relation est établie. Et pour ce second volet, j'espère vous avoir donné quelques éléments au cours de ces instituts bibliques, quelques éléments sur lesquels vous pouvez discuter et réfléchir avec des amis musulmans. Donc il ne s'agit pas de ne pas dire la différence, mais de la dire vraiment, dire la vérité, mais de la dire dans l'amour une fois que la relation est établie. Mais si vous êtes intéressé par ces discussions avec vos amis musulmans qui s'interrogent ou vous interrogez sur certains points que vous pouvez aborder avec eux, j'aimerais vous signaler deux ouvrages qui peuvent vraiment être très utiles. Le premier, c'est un classique, mais il est bien fait. C'est celui de Shawkat Mukari. Il n'est pas long et il ne rentre pas dans les détails, mais il explique, il expose les choses d'une belle manière. C'est Shawkat Mukari. Il y a une nouvelle édition en 2014 qui a été vraiment augmentée. C'est la foi à l'épreuve, l'islam et le christianisme vu par un arabe chrétien. Et puis sinon, le deuxième livre, un peu plus gros, qui vient de sortir, c'est celui de Christine Schayermacher. Il a été traduit de l'allemand et c'est Exercice qui a fait ce travail en 2016. Et là, c'est beaucoup plus consistant, mais en même temps, il fait vraiment le tour de beaucoup de questions, y compris des questions d'actualité sur la question du voile, etc. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éléments, comme je disais, pour discuter, pour témoigner. Et je rappelle, pour terminer, les deux objectifs que j'ai poursuivis tout au long de ces instituts bibliques. Le premier, c'est d'équiper les chrétiens, donc les frères et sœurs, c'est de nous équiper, nous, pour notre témoignage, de nous équiper et donner raison aussi à notre foi, à vrai dire, mais aussi le deuxième objectif, c'est le témoignage, c'est-à-dire de pouvoir annoncer l'Évangile d'une manière claire, d'une manière adaptée à nos amis, à nos voisins musulmans qui sont nombreux autour de nous, dans notre société. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si on peut prendre une ou deux questions rapidement, après quoi nous allons... Est-ce que vous avez des questions ou des réactions, Farah? En arabe, oui. En arabe, oui. Différent, oui.
Oui. Oui, tout à fait. L'Afrique subsaharienne. Oui, tout à fait. Pas seulement, même l'Iran et tout. Donc, Farah pose la question de dire le fait que la confession de foi, il faut la dire en arabe, celle qui fait de nous, enfin, qui fait de la personne un musulman, il faut la dire en arabe. Et puis, la prière aussi, c'est en arabe. Il faut apprendre les textes, c'est la première sourate, plus un autre texte. En arabe, il faut faire la prière en arabe. Farah pose la question, est-ce que ce n'est pas un peu discriminant par rapport aux autres peuples, puisque tous les autres peuples, toutes les autres langues, donc, viennent aussi de Sénia. Cette question, à vrai dire, est posée très tôt, juste après la mort de Mohammed, elle était posée, et très rapidement, on a apporté un hadith qui dit il n'y a de différence entre un arabe et un ajami, c'est-à-dire un païen, entre un arabe et un non-arabe, entre un arabe et un non-arabe, que par les bonnes œuvres. Que par les bonnes œuvres. Je sais pas s'il y a voilà. Donc, et très rapidement, c'est venu pour apaiser. Il faut savoir aussi que la première école donc canonique, hein, il y a quatre écoles de l'islam, et la première école de l'islam reconnaît à certains peuples, notamment l'Iran, vous savez, qui est devenu musulman très rapidement, mais avec une civilisation immense, hein, qui date des siècles et des siècles. Et leur reconnaît aussi la possibilité de prier ou de faire certaines choses dans leur langue, donc en persan. Ceci dit, la langue théologie académique reste l'arabe. C'est une très bonne question que tu poses. Moi, je pense dans notre témoignage avec les musulmans, l'une des choses qui marque, et là je le dis aussi pour l'Afrique du Nord, en Algérie en particulier, écoutez, Dieu peut parler dans notre langue maternelle. Il n'y a aucune raison que Dieu s'adresse à nous dans une autre langue que la nôtre. C'est-à-dire, pour nous, la Bible, bien entendu, est écrite en hébreu et en grec, l'araméen aussi pour quelques passages de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament citent l'Ancien Testament dans la traduction grecque, dans ce qu'on appelle la Septante. Ce qui montre que les apôtres, sous l'inspiration de Saint-Esprit, mais vraiment, enfin, donnent l'aval que l'introduction de la Bible de l'Ancien Testament, et que cette traduction-là est parole de Dieu au même titre que le texte original. Or, dans le Coran, en effet, j'ai ici un Coran, une partie en arabe et une autre partie en français. La partie arabe, c'est parole de Dieu dans la conception musulmane, mais la partie française, ce n'est pas parole de Dieu. Et d'ailleurs, si vous remarquez, il dit toujours le sens des versets, traduction du sens des versets. Ce n'est jamais la traduction des versets. Donc, oui, ce n'est pas considéré comme parole de Dieu dans le Coran. Oui, il y a. Ce que j'ai essayé de dire, c'est bien. Oui. À quelle prière vous faites allusion? Moi, j'ai fait de la prière, j'ai jamais rejeté les juifs et les chrétiens. La prière musulmane, hein, j'ai fait de la prière musulmane, mais j'ai jamais rejeté. Enfin, allez-y, oui, qu'est-ce qui est marqué? Oui, tout à fait. Ça, si vous faites allusion donc à la sourate 9, le Coran 9, c'était l'un des textes qui était vraiment très. Oui, tout à fait, j'ai compris. Donc, notre ami nous dit que comment expliquer, comment aller vers les musulmans alors que eux, 5 fois par jour lors de leur prière, en quelque sorte, ils rejettent, voire maudissent les juifs et les chrétiens. J'aimerais dire que c'est faux. Donc, dans les prières musulmanes, la prière qui est citée, donc le principe de la prière musulmane, donc, si je prends par exemple la prière du matin, elle se divise en 4 chapitres, en 4 parties. Donc, chaque chapitre, chaque partie, il faut dire la Fatiha, c'est la première sourate du Coran, et dans cette sourate, il n'y a rien, vraiment rien, de contre ni les juifs ni les chrétiens. Il faut dire une autre sourate de ton choix. Souvent, l'autre sourate, il y a donc 114, hein, donc il reste 113 autres sourates. Et parmi ces 113, il y a la sourate 9 qui est vraiment longue et je connais très peu de personnes qui citent cette sourate lors de leur prière. Et pour vous promettre, enfin, je peux l'affirmer très clairement, pour avoir connu des musulmans et de ce que je les connais aussi aujourd'hui, la plupart des musulmans ne se servent pas du tout de cette sourate 9 qui pose un vrai problème. Mais c'est le seul texte qui pose, en effet, où les chrétiens et les juifs. Après, il y a la sourate 3, etc. Donc, il y a certains sourates où il y mentionne des tensions entre juifs, contre les juifs et les chrétiens. Ça, c'est vrai, mais dire que tous les musulmans, lors de leur prière, maudissent les chrétiens et les juifs, c'est archi faux. Oui, c'est possible. C'est dommage donc que vos amis se soient un peu plantés. Bon, mais après, on peut avoir malheureusement, mais je vous dis, hein, il faut savoir qu'en France, bon, on ne peut pas aller plus loin, mais en France, on a. Il y a beaucoup de musulmans, par exemple, voilà, il y a un peu de tout. Et franchement, ceux qui. La tendance un peu de cet enseignement un peu extrémiste, violent, etc., ils sont vraiment une minorité, mais comme c'est une minorité très violente, malheureusement, voilà. Mais ce n'est pas la majorité. Et c'est vraiment la majorité. Vous avez déjà posé la question, Thierry ? Ah, très bien. Merci. Merci, Thierry. Voilà. Attendez une minute. Vous avez demandé la parole, c'est ça ? Je ne vous ai pas vu, mais ce n'est pas grave. Allez-y, je vous donne la parole. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Oui. Un autre évangile ? Qu'il soit un anathème. Mais des anathèmes, déjà au temps de Paul, l'apôtre Paul, s'il avait dit ça, donc il y a eu déjà des anathèmes. Et dans l'histoire de la chrétienté, il y a eu toujours des anathèmes, il y a eu toujours des gens, enfin voilà. Bon, mais j'espère, dans ces lieux en tout cas, et moi en premier, on n'a jamais prêché un autre évangile que celui qui nous a été laissé dans le Nouveau Testament. Après, est-ce que vous voulez dire, on peut considérer que l'islam, la religion musulmane, c'est un autre évangile auquel l'apôtre Paul fait allusion, enfin, qui pourrait être classé parmi ces anathèmes? Oui, non, mais tout à fait, je comprends parfaitement. Mais pour moi, je suis pas enfin, voilà, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de comprendre comment mon prochain réfléchit, pense, pour lui transmettre l'évangile. Quant aux anathèmes, l'Église a prononcé déjà assez, franchement, pour que j'en en prononce d'autres. Ah, moi, je n'ai pas présenté le Coran comme un autre évangile, hein, enfin, voilà. Mais après, chacun. D'accord, très bien. Une dernière question, Jude, et après, on arrête. Non, tout à l'heure, si vous voulez, mais là, il faut qu'on arrête parce qu'on a un programme après. Jude. S'il vous plaît. Une dernière question et après c'est fini. Oui, tout à fait. Donc, dans la conception musulmane, en fait, Adam, le premier créateur, enfin, la première créature de Dieu, donc c'est vraiment le lieu tenant de Dieu, c'est-à-dire le lieu tenant du pouvoir, de l'autorité de Dieu. C'est le calife de Dieu, si vous voulez. C'est un lieutenant, c'est vraiment le lieutenant du pouvoir de Dieu, le représentant de Dieu. Et donc, dans la conception musulmane, le fait que Satan ait refusé de s'incliner devant Satan, devant Adam, pardon, Satan refuse, donc le fait de refuser de s'incliner devant Adam, c'est comme s'il a refusé l'autorité que Dieu a donnée à Adam. Et c'est ça, sa chute, qui est considérée comme sa chute. Ce n'est pas le cas, bien sûr, dans l'Évangile, hein. Voilà, écoutez, je vous dis vraiment un grand merci, bon courage pour la suite. Il y a un repas qui vous attend, et puis pour cet après-midi, pour le concert aussi avec Stéphane. Ensuite,